rencontre spirituelle, aujourd'hui, sera question d'un des plus grands maîtres spirituels hindous, sinon le plus grand de ce siècle. Il est mort en 1950, c'est Ramana Maharshi. Il est réputé mondialement, il a été même visité par Jacques Maritain, qui a beaucoup apprécié, puis Carl Friedrich Durkheim et quantité d'autres. On le considérait comme le témoin, avec un T majuscule, un des plus grands sages du XXe siècle. Même Thomas Merton, dont le sceau, ce grand bénédictin, quantité d'autres sont allés le voir, tellement il était remarquable. C'était un homme presque toujours silencieux, qui n'écrivait qu'exceptionnellement. Mais on a réuni de lui beaucoup de ses paroles, de ses réponses à différentes questions. Et Ramana Maharshi, on a publié de lui en particulier un livre que j'ai, l'enseignement de Ramana Maharshi. Ça ne couvre que les années 1935 à 1939. Et c'est un immense volume de 600 pages avec des tables alphabétiques très bien faites. C'est publié par les éditions Albin Michel. C'est vraiment un très beau livre. Il y a aussi un livre qui m'a inspiré beaucoup, c'est « Présence de Ramana Maharshi ». Dans la collection « Témoins spirituels d'aujourd'hui », ce sont surtout des chrétiens qui sont là, mais il y a Ramana Maharshi, c'est publié par les éditions du Cerf, des éditions évidemment dirigées, comme on sait tous, par les dominicains. Et ce petit livre, publié il y a 20 ans, est un classique. C'est pas très long à lire, c'est 150 pages, mais ça vaut vraiment la peine. Ramana Maharshi est considéré comme le plus traditionnel des grands maîtres hindous modernes. Et on considère qu'il a atteint la sainteté de la contemplation. Ramana Maharshi est né et a vécu et mort dans l'Inde du Sud, où il y a des chrétiens, d'ailleurs, depuis presque 2000 ans. Et une grande partie d'entre eux sont réunis à l'Église catholique. Et ils fournissent beaucoup de vocations, d'ailleurs. Pendant les 20 dernières années du 19e siècle, il a donc vécu tout jeune. Et c'est avant la fin du 19e siècle, à 17 ans, qu'il s'est retiré comme ermite. À 17 ans, il a compris des choses que souvent on ne comprend qu'à 60 ou 80 ans. Et il a donc vécu aussi pendant les 50 premières années du 20e siècle. On dit que souvent les enfants ressemblent à tous les enfants, que les adultes vivent comme tous les adultes, mais on sait très bien, parce que vous êtes des auditeurs de rencontres spirituelles en particulier, qu'il y en a un certain nombre qui se consacrent à des pratiques religieuses, particulièrement en Inde, à chaque instant. À chaque instant, ils pratiquent vraiment leur religion à fond. Ce sont des hommes et des femmes, on les voit, n'est-ce pas, immobiles. On voit ça à la télévision, hein, dans des photos. Ceux qui sont allés en Inde en ont vu, j'en suis sûr. Immobiles, apparemment insensibles à ce qui se passe autour d'eux. Ces gens-là nous rappellent, à nous, voyageurs, par leur présence silencieuse, qu'une recherche intérieure et personnelle, cela existe toujours, en cette fin du XXe siècle. Chez nous, c'est impensable. Ceux qui sont consacrés comme ça sont cloîtrés. On n'a pas idée de les mettre comme ça, un peu sur la route, où ils se mettent là, devant le public, sans gêne. Nous, les gens sont cloîtrés, ou ceux qui vivent ça, ça n'y paraît pas trop parce qu'ils sont dans l'action. Et ils ont des vies spirituelles extrêmement intenses, religieux, religieuses, prêtres, ou laïcs consacrés. Mais comment font-ils? Est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre une telle paix, une telle béatitude comme Ramana Maharshi? Comment expliquer ça à des gens comme nous qui vivent dans une société matérialiste? Nous faisons semblant d'y vivre, au fond. Cette société donne des signes de plus en plus évidents d'une prochaine disparition, d'une mort qui s'en vient vraiment. Hein? Nous sommes comme des zombies. Notre vie est tellement insuffisante qu'il faut sans cesse rappeler des réalités d'un autre homme. C'est ce que nous allons faire encore une fois aujourd'hui, en prenant connaissance de la vie de cet homme dont le père s'appelait Sundaram Aiyar. Ce dernier nom c'est celui de la caste brahmane à laquelle il appartient. C'est la classe, la caste la plus élevée. Son père était comptable de son état et pas très riche, à l'encontre de ce qu'on a dit. Et il a toujours vécu à Tiruchuti. Il y a sa femme, Alagama, qui va aller vivre auprès de son garçon plus tard. Et ils sont donc les parents d'un deuxième garçon, qu'on appelle Venkataraman, c'était son nom. Bien des années plus tard, des membres de son entourage, des amis, des disciples, des fidèles vont lui donner les noms sous lesquels il est connu aujourd'hui, c'est-à-dire Ramana, qui est une simple contraction de son nom Venkataraman, Raman. Et Maharshi, c'est le grand Rishi, le saint et le sage, pour qui la vérité est toujours présente. Il est né selon la concordance des calendriers hindous et occidentaux, ou occidental. Il est né le 29 décembre, 4 jours après Noël, en 1879, puis il est mort, chose étrange, le 14 avril 1950, un peu après le Vendredi Saint. Dans le numéro du journal Le Monde daté du 16-17 avril 1950, il y a un entrefilet qui annonce la mort du philosophe et écriton Ramana, Maharshi, dont la pensée a exercé une grande influence sur de nombreux intellectuels occidentaux. À l'âge de 17 ans, on écrit, Ramana avait renoncé au plaisir que son immense fortune, pas vrai, aurait pu lui procurer pour se consacrer à la recherche de la vérité philosophique et mener une vie ascétique. Mais en réalité, toute l'importance spirituelle de Ramana Maharshi provient du fait, non qu'il ait consacré sa vie à la recherche de la vérité philosophique, mais c'est l'affaire, c'est qu'il l'a trouvée. Quant à son influence, on ne peut pas dire qu'elle a marqué de nombreux intellectuels occidentaux, c'est exagéré, bien que je vous en ai nommé tout à l'heure comme Jacques Maritain, mais simplement un tout petit nombre de ceux-ci, minime, comme le père Montchanin. Minime, en tout cas comparé aux femmes et aux hommes du monde entier de toutes les conditions sociales qui ont été touchés un jour par son regard. Mais surtout, les Occidentaux, c'est une quantité infime par rapport aux foules indiennes qui se sont inclinées devant lui et qui, de nos jours encore, vénèrent son souvenir à sa tombe. Pour ce qui est de son immense fortune, il suffit de rappeler que son père comptable, au salaire de 2 roupies par mois, c'est pas beaucoup, hein, non seulement comment il faisait pour nourrir sa famille, mais son père n'a été plus ou moins à l'aise que dans les dernières années de sa vie. Quoi qu'il en soit de ses erreurs, ses inexactitudes du journal Le Monde, pourtant un grand journal, en transmettant à l'Europe, et spécialement à ses lecteurs français et même québécois, la nouvelle de la mort de Maharshi, eh bien, le journal Le Monde établissait un lien subtil, si on peut dire, entre ceux qui ont pris connaissance de ce qui a été, semble-t-il, une manifestation humaine contemporaine de la toute possibilité divine, comme on dit en Inde, une manifestation humaine contemporaine du XXe siècle, de la toute possibilité divine. On a trouvé ça chez Mère Teresa, on trouve ça chez nos saints. Mais Ramana Maharshi en est un hindou gratifié, disons, par Dieu, à cause de sa sincérité, à cause de sa solidité, de sa ferveur, de son amour pour Dieu d'ailleurs. Dans l'article du Monde, un fait exact, c'est à l'âge de 17 ans, qui est survenu pour Venkataraman, une expérience intérieure, qui va être à l'origine de cette étonnante trajectoire spirituelle. Jusqu'à ce jour, et ce jour-là, son existence s'est déroulée, comme celle de tout jeune garçon hindou. C'est facile d'imaginer, premier hindou, à la fin du 19e siècle. Le père est devenu avocat plaidant, il passe de longs moments, après ses heures de travail, à rédiger des lettres et des pétitions pour ceux qui lui demandent de l'aide. Il meurt, son père, en 1890. Ses enfants, dont Venkataraman, qui a 11 ans seulement à ce moment-là, sont recueillis par leur oncle paternel qui habite à Madurai, la grande ville du centre du sud de l'Inde. Et pendant 6 ans, Ben Kateraman y mène une vie habituelle d'un garçon qui est plus porté au sport et aux activités en plein air jusqu'aux études. C'est-à-dire plutôt qu'aux études, ça ne l'intéresse pas tellement les études. Une fois à ce sujet, noter d'ailleurs un fait, ça nous oblige d'ailleurs à revoir notre point de vue habituel sur l'école, puis la transmission du savoir peut-être, ce qui nous inquiète beaucoup actuellement au Québec. Hein. C'est ce jeune écolier, pendant toute cette période, il n'y a aucun intérêt particulier pour les textes sacrés hindous, ça ne l'intéresse pas la religion au fond. Ni encore moins pour ceux d'autres traditions, en particulier du christianisme, qui va l'intéresser plus tard. Plus tard, le Maharashi va faire montre d'une connaissance sans faille. C'est curieux, hein? De toutes les moindres nuances, des différents aspects, de toutes sortes de doctrines métaphysiques, non seulement de son propre pays, mais aussi de la Bible, et surtout du Nouveau Testament, puis aussi du Coran même. Sa mémoire est prodigieuse. Mais c'est pas une explication satisfaisante, puisque personne n'a jamais vu Ramana Maharshi plonger dans la lecture des Upanishads, les textes sacrés hindous, comme le Vedanta aussi, ou même du Nouveau Testament. Il dira d'ailleurs, bien des années après, hein, un ancien camarade d'école venu le rejoindre, « Vous, au moins, vous saviez le sanskrit pour lire les textes sacrés hindous, là. Vous saviez le sanskrit quand vous avez quitté la maison. Moi, je ne savais rien du tout, rien du tout. » C'est donc en 1896, un jour mémorable, jeudi 16 juillet, que le jeune homme de 17 ans, Ben Kateraman, qu'arrive cet événement central. C'est l'événement central de sa vie. Hein. C'est dans la maison de son oncle, à Madurai, où il vit, parce que son père est mort. Et sans préparation particulière, c'est tout soudain, ce jeune hindou va réaliser cette délivrance que les textes décrivent, hein, dans l'hindouisme, aussi bien que dans le christianisme. Une expérience fulgurante. C'est la dissolution soudaine, on pourrait dire, du moi, son ego. C'est une immersion totale dans ce qu'on appelle en langage hindouiste le soi, avec un S majuscule qui recouvre évidemment Dieu, la divinité, le Seigneur. Comme il l'appelle d'ailleurs. Bien plus tard, celui qui est devenu Bhagavan Ramana Maharshi, mais je l'appellerai toujours Ramana Maharshi, a raconté ce moment central de sa vie. C'est un très beau texte que je vais vous lire. Voici donc le récit de Ramana Maharshi sur sa conversion du 16 juillet 1896 à 17 ans. Il écrit, « Environ 6 semaines avant mon départ définitif de Madurai, il s'est produit dans ma vie un grand changement. Ce changement a été très rapide. J'étais seul dans une des pièces du premier étage dans la maison de mon oncle. Je n'avais été malade que rarement et ce jour-là, ma santé était excellente. Mais j'ai été pris soudain d'une violente peur de la mort. Rien dans mon état ne la justifiait et je n'ai pas essayé d'en découvrir la raison. Je me suis contenté de l'éprouver. Je me disais, je vais mourir. Et je me demandais quoi faire. Il ne m'est pas venu à l'esprit de consulter un médecin ou l'un de mes amis. Je sentais qu'il me fallait résoudre moi-même le problème sur le champ. Le choc causé par la peur de la mort forçait mes pensées à l'observation intérieure et je me répétais mentalement, sans réellement formuler des paroles, maintenant que la mort est là, que signifie-t-elle? Qu'est-ce que c'est que mourir? C'est ce corps-là qui meurt. Et aussitôt, je dramatisais le fait de la mort. J'étais couché, les membres raides, comme si j'étais mort réellement. J'imitais la situation d'un cadavre pour donner à mon enquête une réalité plus grande. Je retenais ma respiration et je serrais mes lèvres pour qu'aucun son ne puisse s'en échapper, pour m'empêcher de prononcer le mot « je » ou tout autre mot. Bon, me disais-je, ce corps est mort. On l'emportera complètement rigide au lieu de sa sépulture et on le brûlera et on le réduira ensemble. Mais suis-je mort par cette mort de mon corps? Mon corps est-il moi? Il est silencieux et inerte, mais je sens la pleine force de ma personnalité et j'entends même la voix du soi, le Dieu, au fond de mon être. Je suis donc un esprit qui transcende le corps. Le corps meurt, mais l'esprit, transcendant le corps, ne peut être touché par la mort, ce qui veut dire que je suis un esprit immortel. Ces pensées, continue-t-il, n'étaient pas obscures et ternes. Elles jaillissaient en moi comme des vérités éclatantes, que je percevais directement sans que mes activités cérébrales soient en jeu. Le soi était donc quelque chose de très réel, la seule chose réelle dans mon état présent, et toute l'activité consciente de mon corps se concentrait sur ce soi. Depuis cet instant, la puissance fascinante de ce soi s'est placée au cœur même de toute mon attention. C'est ce qu'expérimentent souvent des jeunes de cet âge-là dans le catholicisme. On en a les récits. Je vous ai parlé lundi de cette Thérèse de l'Enfant Jésus du Chili. Thérèse de Jésus. Une jeune carmélite morte à 19 ans. C'est ce qu'elle ressentait. Hein? Je continue donc le texte de Ramana Maharshi. La crainte de la mort avait disparu et pour toujours. L'absorption dans le soi s'est poursuivie sans interruption. D'autres pensées passaient et disparaissaient, pareilles à toutes sortes de notes de musique. Mais le soi demeurait comme la note scruti. La note scruti, c'est, vous savez, cette note monotone, persistante, dans un morceau de musique hindoue, comme on en entend aujourd'hui, là. C'est semblable à un fil auquel sont enfilées des perles. Cette note constante, ça représente le soi, Dieu, qui persiste au travers de toutes les formes de l'être. Alors il dit que le soi demeurait comme la note scruti sous-jacente à toutes les autres notes et se confondait avec elles. Que mon corps soit occupé à parler, à lire ou à quoi que ce soit d'autre, tout mon être n'en était pas moins centré sur le soi. Avant cette crise, je ne le distinguais pas clairement et je n'étais pas attiré consciemment vers lui. Il n'était pas attiré consciemment vers Dieu, quoi. Je ne ressentais pour lui nul intérêt direct ou perceptible. Je ne pensais même pas demeurer constamment à lui. Alors pour ce jeune hindou de 17 ans, tout se passe alors très vite. L'existence qu'il avait vécue jusqu'à ce moment-là devient difficile, mais bientôt impossible même. Son entourage sent confusément qu'un changement est survenu, puis quelques semaines plus tard, celui qui est encore Venkatraman, là, irrésistiblement attiré par la solitude, quitte sa famille. Il quitte sa famille à cet âge-là. C'est normal, on l'a quitté à 17 ans, 18 ans. Moi, à 18 ans et quelques jours, je suis entré à Saint-Benoît-du-Lac. Ça se faisait. Bon, peut-être pas avec la même intensité que la sienne, je veux pas me comparer à lui. Alors, il laisse un message. Il dit, à ses parents, je suis à la recherche de mon père, avec un P majuscule. Ça rappelle Jésus quand on l'a retrouvé dans le temple, hein, quand la Sainte Vierge et sa mère et puis Saint-Joseph l'ont retrouvé. Je suis à la recherche de mon père selon l'ordre qu'il m'a donné. C'est une entreprise vertueuse que j'entreprends. Ne vous attristez donc pas et ne dépensez pas d'argent en recherches inutiles. Alors, Theraman a entendu parler d'une montagne sacrée, Arunachala, qui est considérée dans toute l'Inde comme la manifestation terrestre de Shiva. Hein? Shiva, c'est, disons pour les hindous, presque l'équivalent de l'Esprit Saint. C'est un haut lieu de l'hindouisme, cette montagne. C'est le but, d'ailleurs, de nombreux pèlerinages, puis surtout aujourd'hui. Il sait qu'elle, à cause de lui, qui est enterré là, il sait qu'elle se dresse d'un seul bloc au-dessus de la ville de Tiruvannamalai, dont le temple Annamalayar est l'un des plus beaux du pays. Il sait aussi que c'est là qu'il doit se rendre. Et avec 3 roupies obtenues de son frère sous le prétexte de s'inscrire à un cours d'électricité, oh, un petit mensonge blanc, hein, il prend un billet de chemin de fer pour Tindivanam, la station la plus proche de Tiruvannamalai. C'est sur la ligne qui, de Madurai, joint Madras, Tiruchipalli. Il arrive le 1er septembre 1896, au petit matin. Le temple est grand ouvert, il n'y a personne, et au-dessus de ces grands murs d'enceinte, qui sont flanqués par quatre immenses tours qui ont l'air des pyramides, là, et qui dominent autant de portes d'entrée, là, qui sont construites en pierre, apparaît tout à coup un enchevêtrement de cailloux, de rochers, qui brillent au soleil, le vent, et de petits arbustes, et la montagne de l'éveil, Arunachala. Ainsi se termine donc la première partie de son existence, 17 ans, et c'est ainsi que ça commence la seconde période, qui va s'étendre jusqu'en 1922, soit un peu plus d'un quart de siècle, tout entière passée dans le temple, dans ses environs immédiats, et sur le monde de Shiva, ce dieu hindou-là, qui est l'équivalent de l'Esprit Saint, comme je vous dis, va se mettre sous l'emprise de Shiva. C'est d'abord l'accomplissement de quelques gestes rituels auxquels la population locale est bien habituée, mais ça n'en revêt pas moins une solennité assez naturelle. C'est assez beau, d'ailleurs. Ramana Maharshi se fait raser les cheveux. Il jette dans l'étang la menue monnaie qui lui reste après avoir payé son billet de train. Et il se débarrasse de tout ce qui pourrait rappeler à ceux qu'il rencontre sa caste familiale de brahmane. C'est le renoncement absolu qui le coupe en quelque sorte de son passé. Seul, immensément seul, il s'absorbe dans le silence, dans l'immobilité à 17 ans. Successivement, des hommes et des femmes, frappés par l'aspect de ce tout jeune homme, qui vit dans cette méditation sans fin, qui est indifférent à tout ce qui l'entoure, ben, ils se mettent à lui apporter un peu de nourriture. Ils le protègent d'abord de la curiosité des gens, puis de leur dévotion, qui devient gênante, hein? C'est tellement extraordinaire. C'est que déjà, il y a une béatitude et une paix que ces visiteurs ressentent avec intensité, qui émanent de cet adolescent. Comme de cette jeune Chilienne dont je vous ai parlé là lundi, puis de tant d'autres dont je vous ai parlé. Ça existe chez nous, mais nous, c'est cloîtré, c'est caché. Je ne retiendrai de ces années au fond que deux événements qui en illustrent la signification. En premier lieu, d'abord, la rencontre avec sa famille, qui a fini par le retrouver. Sa famille a entendu parler par des voyageurs venus de Thiruvannamalai, d'un très jeune ermite qui ne parlait jamais. Alors, la mère puis les frères de Ramana se demandent s'il ne s'agit pas de Venkataraman. Ils font le voyage. Ils le reconnaissent tout de suite, malgré sa nouvelle apparence, et puis ils lui demandent de revenir parmi eux. Et sa mère, alors, le supplie au moins de lui répondre d'un mot. Et alors, il y a un spectateur de cette scène qui tend à Venkataraman, au jeune adolescent, là, lui tend un morceau de papier et un crayon. Mais Venkataraman écrit pour répondre à sa mère. Il ne veut pas lui parler, il veut garder le silence perpétuel. Il écrit « Ce qui est destiné à ne pas se produire ne se produira pas, quelque effort que vous fassiez. Ce qui est destiné à se produit, quelque effort que vous fassiez pour l'empêcher. Le meilleur parti est donc celui du silence. » Si le silence observé par les moines, je connais un jeune moine à Saint-Benoît-du-Lac, le prieur lui dit d'aller saluer ses parents qui partent avant la fin du silence de nuit. Il va les saluer, mais comme il n'a pas obtenu la permission de leur parler, il ne leur parlera pas. Il les embrasse, il embrasse son père, sa mère, ses frères. Il ne leur parlera pas, c'est le silence. Ça se fait chez nous, bien oui. Quelques mois après cette visite de sa famille, ce jeune hindou vit continuellement dans le silence. Et sa mère, Alagamal, vient le revoir, mais c'est inutile. Et elle traverse alors des années douloureuses. Il y a la mort de deux de ses fils. Ce sont aussi des années difficiles. Il y a la vente de la maison de Tiruchuzi parce que son mari est mort en 1890. Ça lui permet de régler de grandes dettes. Mais elle attend finalement 1916. Son fils Ramana Maharshi a à ce moment-là 36 ans. pour se décider à venir s'installer, comme je vous l'ai laissé entendre au début de l'émission, auprès de Ramana Maharshi, de son fils. Qu'elle ne quitte plus jusqu'à sa mort en 1922, elle va donc rester 6 ans auprès de lui avant de mourir. Elle est enterrée d'ailleurs au pied de la montagne sacrée, et c'est autour de son tombeau que les fidèles de son fils vont construire les premières maisons de ce qui va devenir l'ashram, car ça sera comme une espèce de monastère, si vous voulez, un ashram. Ramana Maharshi s'installe, si toujours ce mot peut s'appliquer à un homme qui ne possède rien, il s'installe donc dans 2 grottes naturelles qui se trouvent sur le versant oriental d'Arunachala. Il habite successivement Virupaksha, du nom d'un saint homme qui y a vécu longtemps, et Skandashram, un frère de Ramana, très ému par son frère, est devenu moine. Il s'établit à son tour auprès de Ramana Maharshi. Il se joint à une communauté de fidèles qui demeure sur place. Tout le monde maintenant dans la région sait qu'un sage, Ramana Maharshi, a réalisé en lui ce qu'on appelle l'ultime délivrance, que l'Esprit Saint opère dans nos cœurs, l'Esprit de Jésus. Lui, il l'obtient sans la connaissance de Jésus, par une grâce particulière de Dieu. Et il vit dans une grotte de la grande montagne voisine, son frère. Nombreux sont ceux qui parcourent quelques kilomètres, généralement en famille, pour apercevoir ce saint. C'est le darshana, c'est la vision, comme on dit, de celui qui sait, à laquelle les hindous confèrent une puissance de transformation de la personne. Celui qui sait, celui qui a compris. Dès l'année 1911, un Anglais, Humphreys, et le premier Européen a rencontré Ramana Maharshi, il y a 31 ans. Ramana Maharshi m'a toujours déclaré que l'acceptation de se prêter à ce darshan, à cette, au fait de se montrer, comme on peut dire, c'est pas qu'il se montre, c'est qu'il permet aux gens de venir le voir. C'est pour lui une véritable obligation, parce que ça permet de parler, en ce qui le concerne, d'un témoignage de la réalité de l'esprit. Il est celui qui témoigne. Un peu comme les moines qui vont au cœur devant la foule, ou les moniales, qui sont vus, et ou entendus, à tout le moins, et qui témoignent de leur présence. On a écrit la fonction spirituelle de l'acte de présence, a trouvé chez le Maharshi son expression la plus rigoureuse. Ramana Maharshi était comme l'incarnation, à la fin des temps et en face de l'activisme moderne, de ce que l'Inde a de primordial et d'incorruptible. C'est très important. Il a manifesté la noblesse du non-agir contemplatif. On se plaint toujours que les contemplatifs font rien. Ben, il y a une noblesse, là. La noblesse du non-agir contemplatif en face d'une morale de l'agitation utilitaire. Souvent, on se croit très utile, on s'agite. Mais sommes-nous plus unis à Dieu? Est-ce qu'il y a une fusion entre Dieu et nous? Et il a montré à Ramana Maharshi l'implacable beauté de la vérité pure, en face des passions, des faiblesses et des trahisons. C'est ce qu'écrit un auteur dans Perspectives spirituelles et faits humains, dans les Cahiers du Sud, en 1953. D'ailleurs, en 1953, on a publié Carnet de pèlerinage, où le Swami Ramdas, dans un ouvrage considérable, toujours chez Albin Michel, raconte ses passages dans des ashrams et auprès de gens comme Ramana Maharshi. C'est en partie pour faciliter ces rencontres, rendues difficiles par l'endroit bien isolé, puis l'accès peu facile des grottes où est Ramana Maharshi, en partie pour se trouver dans les régions tout près de l'endroit où sa mère est enterrée, que Ramana Maharshi, en 1922, quitte le versant d'Arunachala pour s'établir définitivement à son voisinage immédiat, quelques kilomètres de Thiruvannamalai, dans la direction du soleil couchant. C'est là qu'il va quitter son corps physique, selon l'expression hindoue, 28 ans plus tard, en 1950, le 14 avril, comme je vous l'ai dit au début de l'émission. Et ce changement, ce déménagement, c'est au fond quelques centaines de mètres, et même pas un kilomètre, est encore moins marqué dans le comportement de Ramana Maharshi, qui continue, lui, invariablement, jour après jour, à mener la même existence. Puis le nombre de visiteurs augmente régulièrement. La présence de ce sage est dorénavant connue dans la région, puis dans l'ensemble du pays, puis enfin en Europe et aux États-Unis. Rien dans le déroulement quotidien n'est changé pour autant. Pourquoi l'homme qui a atteint la sérénité, qui a vu Dieu, disons, qui est immergé dans la béatitude d'une réalité intérieure parfaite, pourquoi modifierait-il quoi que ce soit de lui-même à la suite d'événements extérieurs qui n'ont pas, au fond, d'importance? Il écrit donc parfois en quelques mots, comme je l'ai dit au début de l'émission, il répond à des questions posées, il partage quelques tâches ménagères, notamment à la cuisine, le plus souvent en silence, et c'est comme ça que se développe une véritable transmission subtile d'une réalité spirituelle exceptionnelle. Ramana Maharshi est témoin. Je vous rappelle le titre du livre « L'enseignement de Ramana Maharshi » paru aux éditions Albin Michel, immense brique de près de 600 pages, qui comprend ses enseignements de 1935 à 1939. Alors, jusqu'à son dernier jour, il va faire en sorte que ses visiteurs venus de la ville voisine ou d'un pays étranger, là, arrivés à pied puis sans l'argent ou dans des automobiles luxueuses, que ce soit des serviteurs, des gens très simples, ou le premier ministre, il s'arrange pour qu'il puisse l'apercevoir, éventuellement lui parler, s'incliner en tout cas, non devant ce qu'il appelait lui-même ce niveau de corps, il n'attache aucune importance à sa propre petite personne, mais face à l'incarnation vivante de la réalité divine qui est en chaque être humain. Lui, il l'avait retrouvé, il est là, sans jamais manifester une ambition quelconque, hein? Même une parcelle d'amour propre, une de ces projections du « moi-je » qui jalonnent les échanges entre les personnes qui se croient très spirituelles. Et de toute évidence, il n'est pas ceci ou cela, il est. Ça me fait penser au frère de Jean Vanier, hein? Dont Vanier, trappiste. Il est comme ça. Il y a des moines, il y a des hommes, il y a des femmes comme ça, comme Mère Thérésa, n'attachait aucune importance à sa petite personne. Quelqu'un lui disait « Quel bonheur j'ai de vous rencontrer ici à Montréal quand elle est venue. » Et puis, Mère Thérésa lui a répondu « Le bonheur, il est là dans le tabernacle. C'est là qu'est Jésus. » Elle n'attachait aucune importance à cette personne. Un sourire d'amour et de pacification, un regard, c'était tout ce que les gens cherchaient. Hein? Un regard qui témoigne de la vérité intérieure. Dans une époque de l'agitation extérieure, et ce regard de Ramana Maharshi témoigne du silence dans le bruit et la fureur. Ça témoigne de la paix au milieu des désastres et des atrocités de temps et temps de guerre comme on en a une actuellement. Son regard témoigne de l'esprit vivant, avec un E majuscule, l'esprit vivant devant tant d'intelligence morte. Je me permets de dire que j'ai vu ça bien des fois. J'ai vu de saints prêtres âgés, il y en a ici à Montréal. Oui, à la résidence Ignace Bourget. On voit ça chez plusieurs frères converts ou chez les frères enseignants. J'en ai vu chez les frères de l'instruction chrétienne qui m'avaient invité chez eux. Ah, j'en ai vu chez les frères converts des monastères. Hein. Ah, je me souviens d'un frère Paul dans un monastère en France. Des gens auxquels j'ai eu la chance aussi de donner la communion. Autrefois, quand je la donnais, on voyait des gens s'avancer. Je me disais, ah, Dieu est là. Et les années passent. Ramana Maharshi, il n'avait pas encore 70 ans. Mais il me paraissait plus âgé. C'est pas qu'il était accablé de soucis. Il n'y en avait pas chez lui. Il avait simplement l'air âgé, très frêle. Comme certains sages dont la destinée est attestée par toutes les traditions, il semble que Ramana Maharshi, par sa fonction même de présence au sein d'un monde qui est décentré, là, assumait jusque dans son propre corps une partie de tous les malheurs de l'humanité. Les musulmans disent que certains spirituels prennent sur eux le dixième des malheurs de l'humanité. Et nous savons que notre Seigneur les a tous pris. Est-ce que ce n'est pas significatif de noter que l'un des plus grands d'entre eux, en parlant de lui, de cet homme, a été finalement atteint du mal peut-être le plus caractéristique de notre époque, où je ne devrais pas sourire, c'est le cancer, qui est si terrible. Hein? C'est apparu en février 1949, au coude de son bras gauche, il y avait une grosseur douloureuse qui est vite analysée comme très menaçante pour sa santé. Mais autant l'entourage de Ramana Maharshi s'inquiète, autant lui-même, malgré ses souffrances que les médecins consultés imaginent immenses, il ne donne apparemment aucun signe de contrariété. Et pendant les derniers mois de son existence terrestre, là, la maladie lui permet d'enseigner. Il montre par son attitude qu'il est le plus important, que ce qui est le plus important, c'est de se connaître soi-même. Plutôt que de se grisper dans un attachement, en somme toujours inutile, à son corps. Pourquoi s'attacher à son corps? Il n'y a pas de mort, c'est une naissance, avec un N majuscule. Et depuis, il indique à plusieurs reprises que ce corps n'est pas le Maharshi, et que Maharshi, en tant qu'il est esprit, demeurera auprès de ceux qui déjà s'inquiètent à l'idée d'être abandonnés par lui. Ils sont abattus parce qu'ils croient que Bhagavan, c'est son titre, va les quitter et s'en aller. Mais où irait-il en parlant de lui-même et comment s'en irait-il? Tant que cela lui est physiquement donc possible, il continue non seulement à donner sa bénédiction silencieuse à tous les visiteurs, mais aussi à accomplir les rites de la vie quotidienne. Puis, quand il ne peut plus marcher, il reste étendu sur un divan, dans une petite chambre que les membres de l'ashram ont construite pour lui, et par centaines, par milliers, les fidèles défilent devant lui. Il pressent que la fin approche, et malgré tout ce qu'ils peuvent se dire entre eux pour se réconforter en citant ses propres paroles sur le fait qu'il ne les quittera pas, là, ils ont peur du moment de sa disparition physique. Il dit, le corps est pareil à une feuille de bananier sur laquelle on a servi toutes sortes de mets délicieux, et les feuilles de bananier peuvent servir d'assiette. Puis il ajoute, après avoir mangé les friandises, allons-nous conserver la feuille? Ne la jetterons-nous pas à présent qu'elle a rempli sa fonction? Et c'est donc le 14 avril 1950 que Ramana Maharshi s'adresse à tous ceux qui, parfois depuis des années, quelques-uns depuis l'installation de l'ashram, l'ont entouré, vivant à ses côtés, le rite d'une existence qui est vraiment centrée sur l'essentiel par sa seule présence. Et comme l'un de ses proches, devant son état d'épuisement, demande à la foule de ne plus défiler devant lui, Ramana Maharshi le reprend doucement et lui demande de ne rien faire à ce sujet. Il est prêt à se soumettre jusqu'à la mort à ce désir qu'ont les gens, comme ça, d'apercevoir Dieu en lui. C'est pas lui qui l'intéresse, c'est Dieu. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, il accepte de recevoir tous ceux qui viennent le voir. La nuit tombe, et tout à coup, dans une de chagrin et surtout de paix, un groupe de fidèles se met à chanter un hymne composé par Ramana Maharshi à la gloire de la montagne sacrée Arunachala. Les chants arrivent jusqu'à lui. Il a un sourire ineffable, un très beau sourire. Il avait un sourire extraordinaire. Il a un soupir profond. Sa respiration s'arrête. Tout simplement, elle ne reprend plus. Il dit, je ne m'en vais pas. Où donc irais-je? Au même instant, des milliers de témoins, parfois à des dizaines de kilomètres de là, voient une énorme étoile traverser lentement le ciel, passer au-dessus de l'ashram et disparaître derrière le sommet d'Arushanshala, c'est ce qu'on raconte, et chacun comprend immédiatement la signification de cette étrange vision. Est-ce exact? Je ne le sais pas. Puis je vous ai dit tout à l'heure que Jacques Maritain, que Don Henri Le Sceau, bénédictin, le père Montchanin, dont je vous ai déjà parlé, Jacques Maritain, je vais vous en parler bientôt, l'ont vu. Et le père Henri Le Sceau, qui était d'ailleurs avec le père Montchanin, poursuivait aux Indes une quête spirituelle, il y a longtemps. Il rencontre Ramana Maharshi. Et il écrit, je regardais donc intensément ce vieillard, un septuagénaire, au visage très doux, aux yeux très beaux. Mais quoi, au-delà? Son teint était clair, comme l'est toujours celui des Brahmanes du Sud, d'un bronze doré. Son corps était nu, comme il convient aux vrais renonçants, ceux qui renoncent à tout, à l'exception d'une étroite bande de coton dans l'entrejambe, appelée Kopinam. Assis sur son divan, il lisait un livre ou un journal. Au milieu de ces prosternations, de cet encens, de cette foule assise en silence et les yeux fixés sur lui, cet homme paraissait si naturel, si ordinaire, comme un bon grand-père plein de finesse et de sérénité qui me rappelait mon propre grand-père. Et alors je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Avant même que ma pensée n'ait pu la reconnaître, ni surtout l'exprimer, L'auréole intime de ce sage. L'auréole, hein, c'est les auréoles, c'est ce qu'on entoure la tête des saints. Hein. Vous connaissez ça, l'auréole. L'auréole intime de ce sage avait été perçue par quelque chose en moi, au plus profond de moi-même. C'est donc Henri Le Sceau qui écrit ça, ce bénédictin. Dans ce sage d'Arunachala, c'était le sage unique de l'Inde éternelle qui m'apparaissait. C'était la lignée jamais interrompue de ces sages, de ces renonçants, de ces voyants. C'était comme l'âme même de l'Inde qui perçait jusqu'au plus intime de mon âme, à moi, et entrait avec elle en communion mystérieuse. C'était un appel qui déchirait tout, qui fendait tout, qui ouvrait tout grand un abîme. Oui, on peut dire que Ramana Maharshi nous lance un appel muet, comme nos saints chrétiens, parce qu'il a réalisé en lui ce que nous sommes tous dans notre profondeur. Il s'est installé en lui-même, en Dieu, sur la montagne de l'éveil. Il est le témoin, il est notre témoin saisi par l'amour de Dieu. Le danger, c'est de penser qu'ils sont peut-être de tendance panthéiste. Nous ne le sommes pas du tout. Le Maharshi est là, de toute façon, immergé dans la béatitude de la paix intérieure devant Henri Le Sceau. Et pourquoi donc différencierait-il le riche du pauvre, le puissant du faible? Il ne fait aucune différence, lui. C'est comme dans la règle de Saint-Benoît, on dit qu'il ne faut faire aucune différence. Hein? Règle qui a été écrite il y a 1500 ans. Que veulent donc dire de tels mots? Béatitude, paix intérieure. Pour celui qui a retrouvé Dieu en lui. Qu'est-ce que veut dire riche et pauvre, puissant et faible? Il y a une sorte d'appel que ressent chez lui Louis Massignon, dont je vous ai déjà parlé. Il déclare ne s'intéresser en aucune façon à tel ou tel personnage argenté ou couvert de titres, à moins que malgré cette charge sur les épaules, il ne soit un témoin pur d'une vérité nue, comme l'a été dans sa belle lettre le docteur Camille Lorrain, cette lettre que je vous ai lue le 17 mars en onde. Louis Massignon parle de ça dans Le Vœu et le Destin, paru dans aux études carmélitaines, dans ce magnifique livre des études carmélitaines qui paraissait autrefois. Plusieurs personnes de la région de Madurai, là, où il a grandi à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à 17 ans, ont bien connu ce jeune Venkatiraman, qui font le voyage de Tiruvannamalai. Souvent avec scepticisme, ils disent comment ce jeune garçon sportif serait devenu un saint homme. Mais une fois en sa présence, ils sentent tout de suite la transformation. Un peu comme chez Pier Giorgio Frassati, ce jeune saint italien qui était sportif et tout, hein, dont je vous ai déjà parlé. Vous vous souvenez peut-être. Un de ses anciens camarades tombe à genoux, sans même s'en rendre compte. Un autre ressent un frémissement de tout son corps. Il reconnaît une personnalité qu'on appelle là-bas divine. Et d'autres encore sont bouleversés au point de ne plus pouvoir s'exprimer. Il y a un hindou qui a joué avec le jeune garçon, qui n'était pour lui qu'un petit parmi d'autres, décide au premier regard de Ramana Maharshi de vivre dorénavant à ses côtés. Un autre, enfin, voyant Ramana Maharshi pour la première fois, il sent couler de ses yeux des larmes, en quantité, comme ça, tout simplement. Le don des larmes, on pourrait dire. En lisant de nombreux témoignages d'hindous pour lesquels la rencontre avec le Maharshi fut déterminante, on leur trouve un point commun. Sinon, tous, du moins la grande majorité, viennent avec le désir de recevoir un enseignement, disons, structuré et complet, puis se retrouvent décontenancés par un silence presque total. C'est ce qu'éprouvent les gens qui visitent les monastères et qui voient les moines. Il n'y a pas d'échange verbal. Il y a un témoignage. Ils reviennent des monastères bouleversés. Nous avons ça. Êtes-vous déjà allé dans des monastères? Voir les moines qui prient. Ou les moniales, ou les sœurs contemplatives. Ce n'est quelquefois qu'au bout d'un certain nombre de jours, ou à l'occasion d'un deuxième ou troisième voyage, qu'une déchirure intérieure permet soudain d'entendre ce qui n'est pas dit. Alors, tout à fait naturellement, chacun se trouve en quelque sorte placé dans la situation qui se révèle à la longue, parfois plusieurs années plus tard, la meilleure pour sa recherche spirituelle personnelle. Alors ils s'installent à l'ashram, certains d'entre eux. D'autres travaillent sur place ou dans les environs immédiats. Et d'autres qui poursuivent une existence familiale et professionnelle à l'autre bout du pays ou même du monde sont retenus par cette pensée. Plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant. C'est que, on pourrait dire, avec le psaume de la messe catholique dans l'univers entier aujourd'hui, c'est le psaume 33, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes les angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qu'il craignent. Oh oui, goûtez et voyez. Le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. »